grande table d'été, Olivia Gesbert.
Et bonjour, très heureuse de vous retrouver pour lancer cette grande table d'été qui nous conduira vendredi aux rencontres d'Arles, capitale de la photo, et toute la semaine prochaine à Avignon, qui fait son festival, 71e édition jusqu'au 26 juillet, avec France Culture, bien sûr. Avant de laisser la place à Martin Kenéen le 17 juillet, qui cédera à son tour le micro de la grande table à Géraldine Mosna-Savoie, ce sera pour un mois d'août chargé, ponctué de temps fort culturel. Trois voix de France Culture pour un magazine quotidien consacré aux arts, à la culture, sous toutes ses coutures, mais toujours de belles factures. Et on ouvre le bal aujourd'hui avec des rêves plein la tête, ceux de l'illustrateur américain Winsor McCay. Cherbourg consacre au père de Little Nemo une rétrospective pensée par le scénariste et écrivain Benoît Peters, notre invité à retrouver autour de 13h20. Avant lui, rencontre avec une conteuse, une écrivaine, une romancière, une femme quoi, Simone Schwarzbart, pour son Adieu Bogota, paru au Seuil en mai dernier, en harmonie avec la vie, en polyphonie avec son mari, la romancière Guadeloupe et l'invité de cette première grande table d'été. Bonjour à vous Simone. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un roman à quatre mains, commencé avec l'homme de votre vie, l'écrivain André Schwarzbart, prix Goncourt en 59, une polyphonie littéraire, dites-vous, entamée il y a longtemps, c'était déjà en 64, avec un plat de porc aux bananes vertes, paru au Seuil aussi, qui met en miroir les exils antillais et juifs, poursuivi ensuite avec Hommage à la femme noire, aux éditions consulaires en 89, continue avec L'ancêtre en solitude en 2015 et que vous reprenez donc aujourd'hui à partir des notes prises par monsieur votre mari. C'est une dernière pierre que vous posez à l'œuvre que vous avez bâtie ensemble durant toutes ces années, Simone Schwarzbart.
Non, ça n'est pas une dernière pierre parce que il y a la suite du cycle. Il y a encore un volume qui va paraître, j'espère, en 2018. Mais c'est la continuité de ce cycle antillais que nous avions commencé. Chacun avec sa propre vie, sa propre traversée du temps, chacun avec ses propres profondeurs, sa propre nuit. C'est l'exploration de nos nuits réciproques. En fait, je pense que c'est aussi cela qui donne un peu sa densité à ce livre d'Adieu Bogota. Et c'est le parcours de, c'est vrai que c'est notre parcours, ce regard croisé qui traverse tout le livre, c'est cette mémoire, cette double mémoire qui se rencontre, qui est en écho, et c'est cette histoire de femmes fortes au-delà de l'inhumanité de leurs conditions et cette espèce de fidélité à cet ancêtre qui est la mulâtresse Solitude, héroïne de la lutte pour la lutte contre l'esclavage.
Vous parlez de vos nuits, mais vos jours sont également présents dans ce roman, dans cet Adieu Bogota, qui ne vient donc pas fermer ce cycle entier, qui est peut-être l'avant-dernière pierre pour l'instant. On va y revenir. La vie et la mort sont présentes tout au long de ce roman. Nous marchons avec la mort dans l'ourlet de nos vêtements, avez-vous dit, Simone Schwarzbart. Mais André, parlez-vous aussi comme d'une femme, d'une romancière qui était en harmonie avec la vie, qui était en accord avec la vie. Lui avait plus de mal à trouver cet équilibre. On a le sentiment que dans ce couple, vous étiez la phase lumineuse entre vous deux.
Je pense que j'étais un peu cette luciole qui éclairait sa nuit, bien sûr. Je me faisais pas un devoir, mais c'était tellement lourd. Je sentais l'angoisse tellement forte et je sentais que j'allais moi-même en être complètement submergée. Et je ne voulais surtout pas cela. De sorte que j'ai toujours apporter à André cette vitalité que nous autres Antillais, nous avons cultivée. Cultivée par-delà notre histoire, parce que nous avions aussi une histoire où l'on pourrait, où l'on pourrait aussi se lamenter et pleurer. Mais nous l'avons fait d'une autre façon. Nous l'avons contourné par les chants, en se mettant debout. Nous n'avions pas de livres, nous n'avions pas de grands livres, nous n'avions rien. Nous partions de rien. Et depuis ce rien, je crois que nous avons bien rempli le sac, parce que c'est aussi d'une façon autre, si vous voulez. Je pense que c'est cette musique, je pense que c'est cette façon d'attraper la vie, de rire pour pleurer, de danser pour crier. C'est une façon de voir la vie et de la secouer. Nous avons et de danser avec elle. Et je pense que cela, André l'appréciait et André sentait en fait que c'était un peu de lumière qui entrait par la fenêtre et il l'acceptait tellement volontiers cette lumière.
Qu'est-ce que vous avez mis dans ce sac que vous avez secoué? Vous y avez mis des mots, assurément, et pas les mêmes mots. Vous avez une manière d'écrire qui est assez différente, l'un et l'autre, même si vous aimiez écrire ensemble, même si André vous a donné envie d'écrire, et ça vous l'avez souvent raconté. Vous y avez mis des mots, vous y avez mis de l'amour, vous y avez mis beaucoup de mémoire aussi, avec un grand M.
Tout cela, bien sûr. Les mots. Il y a cette... Il y a ce créole, qui est le réceptacle de cette rencontre des mondes, c'est une langue, c'est une greffe, le créole. Tous ces différents mondes caribéens, les Arawaks, les Caraïbes, les Anglais, les différentes occupations de ces îles, les Français, le vieux français aussi est très présent, les Africains, tout cela est un mélange qui fait que d'emblée nous sommes un peu en fait dans l'universel, par tous ces apports, par tout ce mouvement que nous avons dû créer. Puisque les langues étaient diverses, ces personnes se rencontraient dans un effort de construction d'autre chose, d'un autre ailleurs, dans un mouvement. Et cela, bien sûr, ces mots qui parlent, ces mots qui chantent, ces mots qui hurlent, ce créole, l'héroïne, les apporte. Mais en fait, je pense que ce qui est important, ça n'est pas tant que nous ayons apporté chacun notre mallette et que nous ayons secoué les dés. C'est aussi le fait que on entende au bout du compte une langue, une voix, qu'il y ait quelque chose de nouveau. C'est le fait que chacun de nous se soit fait autre pour aborder cette histoire commune.
Et justement, à propos de voix, il y a deux voix dans ce livre. C'est vous qui avez employé ce très beau terme de polyphonie. C'est un étrange objet littéraire quand même, Simone Schwarzbart, cet Adieu Bogota qui fait suite notamment à L'Ancêtre en solitude. On évoquait ce cycle antillais. Il faut raconter, et ça, c'est ce que vous avez dit à la mort de votre mari, André Schwarzbart, en 2006. Ces personnages qu'il portait, c'est comme s'il me les avait confiés et que je les portais comme lui a porté mon monde. Dans ses papiers, vous avez retrouvé à sa mort beaucoup de textes, beaucoup d'écrits, aussi un manuscrit, celui d'Étoiles du matin, que vous ferez publier par la suite. Vous avez réalisé un vrai travail d'archiviste d'abord, avant de réaliser ce travail de romancière. derrière, c'est-à-dire de mise en scène de ce récit que vous nous livrez aujourd'hui. Alors comment savoir ce qui relève de vous et ce qui relève d'André? C'est probablement un exercice assez vain que de chercher cela. Il faut comprendre que ce cycle entier a été écrit à quatre mains et qu'il brasse l'histoire des Antilles. Mais ce que moi j'aimerais comprendre, c'est pourquoi vous avez eu besoin de lui, d'André, pour l'écrire, et lui de vous. On va écouter peut-être d'abord sa réponse.
J'étais très sensible à toutes les formes de la vie antillaise. Et je pouvais arriver à les exprimer, à les traduire sur le plan romanesque. Mais il y a davantage. Il y a la manière dont les Antillais s'apparaissent à eux-mêmes. Il y a la tradition narrative antillaise elle-même. Il y a la langue créole, qui est une langue très riche, bien qu'elle ne soit pas véritablement écrite. Je ne suis pas arrivé à faire passer la voix antillaise à travers ma propre gorge. Si la chance n'avait pas voulu que la femme que j'avais épousée comme une femme et non pas comme un écrivain s'est avérée être un écrivain, il n'y aurait pas de livre. C'est par elle que cet apport indispensable a pu se faire.
Alors voilà, il y a deux choses dans ce que dit André Schwarzbart, votre mari. D'abord, une belle déclaration d'amour. Il était comme ça, André, votre mari. Il vous disait « écris-moi des histoires ». C'est lui qui vous a fait écrire, qui vous a donné envie d'écrire.
En fait, j'ai vite compris que si je voulais que mon mari me voie, me comprenne, me radiographie jusqu'au plus profond, il fallait que je le lui permette. Donc, il fallait que j'écrive, parce que écrivant, je voyais bien que je m'exprimais jusqu'au plus profond de ce que je ressentais, bien sûr, mais aussi que je lui transmettais mon monde, parce que je lui écrivais des histoires de ce monde, des histoires, toutes les histoires que je pouvais moi-même et qui m'apparaissaient à moi-même comme énigmatiques, mystérieuses, belles, dures et tellement humaines, fortes, que j'ai eu brusquement l'envie d'être moi-même. Et c'est cela qu'il m'a donné, en fait. C'est ce cadeau extraordinaire qu'il m'a fait. C'est tout simplement le désir et la possibilité et la tentation de me montrer, de me montrer tel que je me sentais. Et par là même d'être au monde, de me montrer au monde, parce que quand il m'a rencontré, j'hésitais en tant qu'antillaise, en tant que mon histoire, en fait, je n'en étais pas sûre, je ne l'avais pas justement cette histoire. C'est pourquoi nous avons eu besoin de la faire à deux, cette histoire. Par exemple, l'histoire de la mulâtresse Solitude, je n'aurais jamais pu, moi, écrire cette histoire qui est trop douloureuse et qui était pourtant tellement nécessaire, tellement indispensable, nécessaire. Donc, lui s'est engagé dans cette histoire, à la poitrine nue, dans toute cette douleur autre que les siennes. Il a toujours été dans l'ouverture et le brassage d'autres mondes, toujours.
Il en disait d'ailleurs, plusieurs personnes m'ont laissé entendre qu'un homme blanc ne pouvait honnêtement écrire sur les Noirs. Il se disait révolté par ces critiques, estimant que chaque humain peut légitimement parler de tous ses semblables. Et en même temps, il comprenait que la question était de première importance, je le cite encore, si l'on admet que l'écrivain est responsable devant les réalités vivantes, animées de vrai sang, où la fiction vient boire son existence ambiguë. Voilà ce qu'il expliquait en 67, André Schwarzbart. Simone Schwarzbart, cette écriture, cette liberté qu'il vous a offerte, elle passe à la fois par le choix de la langue, le créole ou le français quand vous écrivez, et est-ce qu'elle se traduit aussi par ce jeu qui est employé dans Adieu à Bogota, Adieu Bogota, si on en vient à l'utilisation de ce jeu, est-ce que c'est vous, quelque part, dans cette narration, ce choix de la première personne du singulier, s'approprier cette histoire ?
Oui, c'est mon histoire. C'est, en tout cas, le choix de... le choix de l'histoire en elle-même, c'est le choix d'André. Mais elle est devenue mienne, cette histoire, de même que lui peut dire « la vieille, c'est moi » en parlant de Marie. Eh bien oui, la vieille, c'est aussi moi. Ça l'est devenu. Et c'est cela qui m'a aussi tellement ouvert à d'autres aspects de ma propre histoire, à cette espèce de grande balade dans le monde des Antillais, dont je ne me rendais pas toujours compte, et qui, avec Marie, m'a apporté tant dans ses pérégrinations. À travers d'autres mondes, à travers une espèce de souffrance universelle des femmes et de l'humanité tout simplement. Ça, ça me reste et ça me connecte directement également à cette histoire juive et à d'autres histoires, bien sûr.
L'histoire juive qui était celle d'André.
Celle d'André. Marie. Mmh. Oui, oui.
Deux histoires qui se croisent et se retrouvent. Extrait de Adieu Bogota, ce roman, le vôtre, Simone, écrit à quatre mains avec André Schwarzbart, édité au Seuil depuis la fin mai. Extrait de ce roman. Ce livre n'est donc que l'écume de ma vie et ma mémoire est si lasse que c'est à peine si les souvenirs que je rapporte, je les considère comme miens. Ce serait donc l'écume d'une autre existence. Hélas, hélas non. Il me faut l'avouer si vague et jaunie soit-elle, ainsi que des photos du siècle passé, toutes ces images ne sont connues que de moi seule, et je les porterai jusqu'à mon dernier jour, au plus creux de moi-même, ainsi que des organes las, parmi l'agitation déclinante et à jamais incommunicable de mes entrailles. On sent qu'il y a effectivement beaucoup de vous dans ces mots, dans ce texte. On peut peut-être expliquer que ce roman est écrit, Adieu Bogota, en deux parties. Il y a Marie, on en a parlé déjà un peu, c'est le prénom de votre héroïne, d'origine martiniquaise, au service de Jeanne. C'est un roman en deux livres, comme deux histoires écrites en miroir. Celle de Jeanne d'abord, dont on revoit la vie et qui s'ouvre sur sa mort, puis celle de Marie, autour de ses pérégrinations, de ses voyages. Et c'est un livre en 12 chapitres. Pourquoi 12 ? Ça, c'est un chiffre qui a été choisi au hasard ?
Mais tout à fait au hasard. Pourquoi 12 ? Parce que ça se terminait au 12e chapitre, tout simplement. Cependant, l'histoire de Marie, c'est justement l'histoire même de Marie qui prend la plume pour dire, pour communiquer, pour parler de sa vie. Et parlant de sa vie, elle inclut tous ceux qui l'ont visité et qu'elle a vu donc avec ses yeux et qui l'ont marqué. Par exemple, cette belle histoire de la Jeanne, cette belle histoire d'amitié dans ces endroits d'inhumanité et où pourtant l'amitié de ces deux femmes est tellement merveilleuse que nous en oublions l'endroit d'où parle d'où la parole est s'échappe et porté.
Oui. Même s'il y a des années dans votre vie où vous avez cessé de publier, est-ce que le goût d'écrire, lui, vous l'avez jamais perdu?
J'ai écrit tous les jours de ma vie. Réellement, avec ma plume et ma feuille blanche, ou alors dans mon cœur et dans ma tête. Et j'écrirai parce que c'est une façon d'exister. C'est une façon aussi de se situer dans le monde. C'est une façon aussi d'être humble et de voir d'autres vies, de visiter d'autres âmes. C'est une façon de se connecter particulièrement à son âme et de pouvoir se fortifier. C'est un combat, ce n'est pas si simple. Cependant, il faut que ce soit nécessaire. On ne peut pas écrire de manière et se dire bon ben il faut que j'écrive, il faut absolument que je fasse deux trois pages par jour. En tout cas, ça n'est pas ma façon d'écrire. Il faut que j'en ressente un besoin. Il faut que ce soit tout à fait nécessaire, et à ce moment-là, je n'ai aucun problème à me mettre à ma table de travail et à commencer à me raconter mon histoire, qui est aussi l'histoire des autres personnes. On a plusieurs vies quand on écrit. On a plusieurs histoires. On est un peu comme Dieu. On invente le destin de ces héroïnes, puisque j'ai surtout je parle surtout des femmes. Donc voilà.
Se raconter des histoires et nous raconter des histoires, écrire pourquoi? Écoutez la réponse du poète et philosophe martiniquais Édouard Glissant.
J'ai été sensible à la démesure de notre temps à nous, le temps antillais, caribéen. Nous n'aurions pas pu faire comme Proust, bâtir une architecture, une cathédrale à la recherche du temps perdu. Parce que je dis toujours que notre temps, nous ne l'avons pas perdu parce que nous ne l'avons jamais eu. On l'a raturé de notre mémoire collective. Et notre temps, c'est un temps éperdu. Ce n'est pas une reconstitution. Par exemple, quand dans un roman, nous descendons de notre histoire, nous sautons de roche en roche dans le temps. Mais ça, c'est une espèce de déconstruction pour arriver à trouver les cadences et les lieux et les rythmes de ce temps. Et par conséquent, c'est une poétique complètement différente de celle de Proust qui rassemble très harmonieusement, majestueusement et cet espace de cathédrale qu'est à la recherche du temps perdu. Et par conséquent, la littérature signifie tout cela. Elle porte tout cela. Elle fait prendre conscience de tout cela et surtout, elle fait toucher par l'imaginaire et par la sensibilité tout cela. Et c'est pourquoi je pense que la littérature est capitale pour nous.
La littérature en lettres capitales, disait Édouard Glissant. Et pour vous, on a parlé de la littérature, de votre littérature, de ce que vous écrivez. Mais dans ce que vous lisez, il y avait parmi les livres de chevet de votre mari, Crime et châtiment de Dostoïevski, qui l'interrogeait sur le déchirement de l'homme entre le bien et le mal. Et vous, les livres qui ont compté pour vous?
Les livres qui ont compté pour moi sont en premier chef les nouvelles de Tchekhov. Tout ce monde russe, tout ce monde avec l'âme brisée et par le servage était directement connecté à mon monde. C'est Tchekhov qui m'a ouvert la voie et qui m'a montré également la grandeur de ces personnages complètement déconstruits et qui n'ont de cesse de se déconstruire, de continuer à se déconstruire bien souvent. Et puis, il y arrive aussi tous ces miracles qui font que les personnages que vous avez créés ou que dans votre monde vous côtoyez, vous les voyez vous éblouir d'une lumière de quelque chose qui est tout à fait nouveau, sibyllin, fort et qui vous éblouit pour toujours, qui vous emmène une lumière que vous, une espèce de petite lanterne que vous gravez sur votre poitrine comme un scapulaire et que vous portez pour toujours. Et à partir de là, bien souvent, c'est votre mesure étalon des personnes que vous allez rencontrer dans votre vie et qui prendront leur échelle de valeur à partir de ces personnes qui n'étaient rien et qui pourtant se sont élevées d'elles-mêmes et se sont mises à debout devant le monde entier. Voyez un peu comment nous fournissons. Nous faisons notre part. Nous sommes des colibris très actifs avec les Laura Flessel, avec les Thuram, avec Condé, avec Glissant, avec Césaire, et j'en passe avec des poètes extraordinaires, avec Mounia, ces mannequins. Nous aurions pu être autre, nous aurions pu être dans une espèce de lamento. Eh bien non, c'est quelque chose que ces personnages sont là et se sont reconstruits.
Adieu Bogota, Simone Schwarzpart, c'est un roman-récit qui interroge la langue, qui questionne l'amour, qui interroge aussi l'histoire du XXe siècle, qui remet à sa place la vie et redonne de l'importance aussi à la vieillesse et à la mort. C'est enfin un roman qui cherche l'humanité dans tous ses recoins. À ce propos, vous convoquez dans tous vos romans des figures héroïques et notamment celles de l'histoire des Antilles, des voix qui ont changé le cours des choses et vous mettez en scène toujours des femmes fortes au caractère bien trempé. Elle portait le même prénom que vous.
Mais l'histoire, c'est pas complètement politique. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça parce que je crois que si les gens l'intègrent pas, c'est pour des raisons émotionnelles, les collègues. Et c'est pas pour des raisons politiques. Pour des raisons politiques, au fond, ils le considéraient. Mais c'est parce qu'ils ne le ressentent pas, qu'ils n'en ont pas l'émotion, qu'ils ne l'ont pas vécu, qu'ils ne le réalisent pas. Et qu'on a ce double discours et en définitive un rejet vis-à-vis de choses qui vous gênent, qui vous indisposent, qui vous posent qui amènent à vous poser des questions et qu'on ne supporte pas. Et je dois dire que ça, indéfiniment, je me dis, je crois qu'au moment où je mourrai, cette révolte profonde que j'ai en moi, elle sera là.
C'était Simone Veil, décédée vendredi à l'âge de 89 ans, ancienne ministre de la Santé, femme politique. Elle s'est battue pour les droits des femmes, pour la construction européenne aussi, pour la vie. Après avoir survécu à Auschwitz, déportée en avril 44, Simone Veil était intraitablement contre la destruction de l'homme par l'homme, dit dans l'Humanité l'ancien ministre Jacques Ralite. Et vous, Simone Schwarzbart, est-ce que vous resterez toujours une femme révoltée? L'écriture apaise, mais elle n'efface pas, elle n'enlève pas la révolte.
On est dans la résistance. L'héroïne pour nous, c'est solitude, c'est le combat, c'est la résistance, c'est la femme de légende qu'elle a été. L'héroïne pour nous, c'est cette femme qui n'a pas de vengeance au cœur, qui est dans la grandeur et qui n'accepte pas d'être soumise. C'est une indomptable. Donc, c'est pour moi un exemple que je m'efforce de suivre.
Merci beaucoup à vous, Simone Schwarzpart. Ce livre écrit à quatre mains, Adieu Bogota, paru au Seuil, est à lire absolument, partir avec pour l'été, mais ça peut aussi se lire en hiver au coin du feu. Merci mille fois à vous. À venir, Benoît Peters, maître d'œuvre de la rétrospective que Cherbourg consacre au père de Little Nemo, Winsor McCay. Mais d'abord, on va fêter l'ouverture d'un festival, le festival Days Off à la Philharmonie de Paris, 8e édition qui se prolonge jusqu'au 10 juillet. Ce soir, c'est la Française Kerenan qui a carte blanche.
Je traîne mes ailes, les yeux fermés.
sur les thèmes, le thème des non-dits. Keren Ahn fait son cinéma toute cette semaine au cinéma MK de Ketsen à Paris. Chanteuse cinéphile, elle a composé plusieurs BO de films à Days Off. Se produira aussi le groupe R, le groupe Métronomie, et ce après Lady Brackney et Cyr Roussel qui étaient en concert ce week-end. À noter aussi une soirée événement, Toi, toi, mon toi, sur le toit de la Philharmonie. On pourra y regarder toute la capitale si vous passez par ici. Il est 13h30 sur France Culture.
France Culture, la grande table d'été, Olivia Gesbert.
Je ne pouvais pas m'empêcher de dessiner tout et n'importe quoi, dit-il un jour. Et tout, il dessina, mais pas n'importe quoi. Illustrateur américain, figure majeure de la bande dessinée, l'américain Winsor McCay, s'est inventé un monde. Pionnier du dessin animé avec les aventures de Little Nemo et inventeur d'un genre, le dessin animé documentaire avec le naufrage de Lusitania. C'était en 1918, inspiré d'un fait réel, le torpillage d'un paquebot transatlantique britannique par un sous-marin allemand. À nos côtés, pour parler de cette figure du dessin animé, Benoît Peters, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, éditeur, théoricien de la bande dessinée, spécialiste d'Hergé, co-commissaire avec François Schuiten de l'exposition Winsor McCay de Little Nemo au Lusitania au musée Thomas-Henry à Cherbourg. Ce sera jusqu'au début octobre à l'occasion de la 8e biennale du 9e art. Avec Schuiten, votre complice, rappelons que vous êtes l'auteur de la série de bande dessinée fantastique Les Cités Obscures chez Casterman et de Revoir Paris. Parlez-nous un peu de ce McKay. Il n'est pas si connu et pourtant à l'époque, au moment où sort Little Nemo, c'est un illustrateur très très populaire. Il fait vendre les journaux dans lesquels il publie. C'est un dessinateur un peu bankable, comme on dirait aujourd'hui pour un réalisateur, un cinéaste. Il était vraiment en phase avec son époque au moment où Little Nemo est publié dans les pages des journaux.
On peut dire d'abord que beaucoup de gens connaissent Little Nemo, ont vu des pages de ce petit garçon qui rêve, qui chaque nuit part dans un monde nouveau avant de se retrouver dans son lit ou quelquefois au pied de son lit quand il est tombé. Mais le nom de Winsor McCay n'est pas aussi connu qu'il mériterait de l'être. Je pense que c'est un artiste majeur du début du XXe siècle. Et c'est vrai que c'est une situation un petit peu extraordinaire. McCay n'est pas l'inventeur de la bande dessinée, mais il est peut-être l'auteur de ses premiers chefs-d'œuvre. Il est celui qui a donné une dimension nouvelle à la bande dessinée, d'abord une dimension nouvelle sur le plan matériel, puisque Little Nemo paraissait dans des journaux de très grand format, c'était les suppléments du dimanche. Les pages sont vraiment gigantesques, et quand on les réduit, elles perdent beaucoup. C'est un homme de presse, et c'est vrai que dans la presse américaine à cette époque-là, pour conquérir de nouveaux lecteurs, pour s'adresser peut-être à un public plus sensible à l'image qu'au texte, les grands patrons de presse, Joseph Pulitzer, William Randolph Hearst, James Arthur Bennett, dans le cas de Winsor McCay, ils se disputent les dessinateurs. Il y a eu une série qui a eu beaucoup de succès avant Little Nemo, c'est le Yellow Kid. Et le Yellow Kid est devenu tellement populaire qu'il est déjà sur des objets, il y a des calendriers, il y a presque un parc d'attractions du Yellow Kid. Et quand Little Nemo apparaît, il devient très très vite extrêmement populaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est moins le fait qu'il soit populaire que le fait que ce soit aussi beau, aussi poétique, aussi sophistiqué et que ça explore d'aussi près le langage de la bande dessinée.
Il a inventé un monde totalement onirique, The Land of Wonderful Dream, sous-titre d'ailleurs de Little Nemo lors de sa publication dans le New York Herald. Quelles étaient les valeurs qui se dégageaient de ce Little Nemo, les traits de personnalité saillants de ces personnages?
Nemo est un petit garçon, c'est un petit garçon d'environ 6 ans, inspiré du propre fils de Winsor McCay, Robert, enfin en tout cas inspiré physiquement au début. Et ce petit garçon va mener des aventures dans un monde où tout peut se produire. Je pense qu'une influence majeure pour Winsor McCay, plus que celle de Freud, qui après tout s'intéresse aux rêves exactement à la même époque, a publié son grand livre sur les rêves, une influence majeure, c'est celle de Darwin. On a le sentiment que vers la fin du 19e siècle, les dessinateurs voient dans la théorie de l'évolution, même s'ils n'en sont pas des spécialistes, voient dans la théorie de l'évolution une possibilité de donner naissance à toutes sortes de métamorphoses. Métamorphose animale, métamorphose végétale, tout se transforme. Il faut dire aussi que le monde autour d'eux se transforme. Ce monde de New York vers 1900, c'est un monde où les gratte-ciel poussent, comme ils ont poussé à Chicago, que Winsor McCay a bien connu. C'est un monde où les automobiles apparaissent, où les premiers aéroplanes font leur apparition. On a vraiment le sentiment que ce soit sur le plan biologique ou sur le plan technologique, que tout est en transformation. Et donc, Little Nemo, le petit garçon, le petit Nemo, le petit personne, eh bien, il est au pays de tous les possibles. Et donc, chaque dimanche, en une page, il peut se passer quelque chose qui ressemble un peu à une attraction foraine, à un numéro qui va impressionner les enfants, mais qui va émerveiller les adultes. Et je crois que ça, c'est une des forces de Winsor McCay, c'est d'avoir d'emblée parlé à tous les publics qui pouvaient rencontrer le journal.
From the director of Home Alone.
Yippee! I'm really flying!
Comes a magical tale for the entire family.
Welcome to Slumberland, my boy.
When a little boy has big dreams, anything is possible.
Your Majesty, may I present Little Nemo?
And every wish can come true.
I hereby crown you Prince Nemo.
Let the celebration begin!
Take off on a wondrous adventure with a young explorer.
It will be Prince Nemo's solemn duty to protect Slumberland from the Nightmare King, as I have done.
My little Nemo.
Little Nemo, Adventures in Slumberland.
Ce Little Nemo qui nous emmène dans ses rêves, dans ce pays. Parce que c'est ça le motif principal de Little Nemo et de McCay, ce sont les rêves. Autre exploration du monde des rêves, c'est Cauchemar de l'amateur de fondue au Chester, publié en 1905 dans l'Evening Telegram. Il en fera un livre, puis un dessin animé. Quelle arrière-pensée avait-il cet illustrateur, ce dessinateur? Vous parliez des métamorphoses tout à l'heure. Il paraît que c'était pas un grand lecteur, qu'il avait pas forcément une bibliothèque qui était très remplie. On peut pas dire que c'est Ovid qui l'aurait inspiré,
non.
Plus qu'un autre, a priori.
Non, c'était vraiment
ses rêves.
Non. McCay, c'est un homme qui naît dans un milieu très modeste, qui dès l'enfance ne rêve que de dessiner, et le premier endroit où il va le faire, c'est les parcs d'attractions, les Dime Museum, donc les musées de 10 cents, où il y a des théâtres de curiosité, on est proche du monde forain. Plus tard, quand il s'installe à New York, il est juste à côté de Coney Island, où il y a aussi ce monde forain. Et donc, il reprend le mécanisme des attractions, mais il le reprend en explorant ce nouveau langage qui est celui de la bande dessinée. Et ce qui est extraordinaire chez McCay, c'est au fond que c'est la page qui est pour lui le terrain principal. Beaucoup d'auteurs de bande dessinée par la suite vont travailler à l'échelle du livre. Mais lui, il n'aura pas vraiment de livre. Little Nemo est trop grand pour donner naissance à un livre. Aujourd'hui, il est édité en livre, il est bien réédité pour la première fois. Mais à l'époque, c'est chaque semaine quelque chose d'aussi extraordinaire qu'éphémère. Ces pages, on ne les revoit jamais. Chaque fois, Winsor McCay en dessine une nouvelle. Il va dessiner jusqu'à 900 cauchemars de l'amateur de fondue au Chester, 500 pages extraordinaires de Little Nemo, dans une sorte de légèreté et de grâce. On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'accumule pas. Il est tout le temps tourné vers l'avant. Il faut dire que sa vie est entièrement tournée vers le dessin. Il a une épouse qu'il a épousée très très jeune, mais qui va devenir une dame assez imposante. Lui est un tout petit monsieur. On est un peu comme dans les dessins de Dubout, le petit monsieur et la dame assez
femme.
Plantureuse, aussi dépensière que lui est plutôt calme. Et donc, il a une très grande maison et il dessine de 16 à 18 heures par jour, particulièrement au moment vers 1911 où il se lance dans le dessin animé, qui en est à ses balbutiements, dont il est vraiment la quasi l'inventeur, et le dessin animé, il le pratique entièrement seul. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des assistants qui font, comme ça se passera à partir de Disney, les intervalles,
les
et de se concentrer
images,
sur les grands
ouais.
dessins, non, lui fait toutes les images. Et donc, le dessin est une passion absolument continue, quasi folle, et il mourra d'ailleurs le crayon à la main, puisque c'est le 26 juillet 1934 que brusquement sa main droite se paralyse et que quelques heures plus tard, il meurt et le journal publie le lendemain le dessin inachevé qu'il avait fait. Donc c'est vraiment une vie pour le dessin, mais avec une exploration de plusieurs médiums, celui de la bande dessinée, celui du dessin animé, celui de la scène aussi. Parce que Little Nemo va être monté en comédie musicale, parce que McCay se produit sur scène, il fait des numéros où il dessine en direct, et puis ses dessins animés, comme Gertie le dinosaure, premier film de dinosaure de l'histoire, eh bien il le présente sur scène en jouant avec l'écran. C'est-à-dire que McCay est là comme un dompteur sur scène avec un fouet, et Gertie lui obéit au doigt et à l'œil, ou bien pour récompenser Gertie, McCay lance une pomme que le dinosaure ou la dinosaure avale sur l'écran. Donc vous voyez, c'est vraiment un homme qui cherche dans toutes les techniques de son temps. Il a un côté Méliès. Ça c'est certain, ces deux hommes qui sont tout à fait contemporains chronologiquement et qui ont l'un et l'autre le rapport à un ancien médium, qui est celui de la salle de spectacle, hein, le monde de l'illusion, le monde de la magie, de la prestigitation chez Méliès, le monde de la fête foraine et de la salle de spectacle pour Maquet, et l'un comme l'autre vont partir à la rencontre d'un nouveau médium, de la modernité, et l'explorer dans tous les sens.
Alors vous l'évoquiez, il aimait peut-être même plus que l'image fixe, le mouvement. Gertie le dinosaure, ça a été un dessin animé de 12 minutes, ce qui est extrêmement long quand même pour l'époque.
Et brillant en animation, tellement vivant. On les trouve sur Internet assez facilement. Et la manière dont les personnages bougent, c'est aussi beau que les meilleurs dessins animés qui ont suivi.
Voilà, et côté sauropode, on y retrouve aussi un peu l'ancêtre de Denver, hein, qui a peuplé l'imaginaire de nombreux enfants aujourd'hui. Ils sont l'un et l'autre, Gertie et Denver, force un peu toche, ces petits dinosaures-là. Et il faut aussi dire que Little Nemo, dont on entendait tout à l'heure la bande-annonce, a été réadapté par la suite. Là, c'était en 89, sur un scénario de Chris Columbus. Il y a eu aussi des adaptations à l'opéra, parce que vous parliez de ce travail de scénographe que menait littéralement Maquet dans ses dessins et dans ses films animés. Il y a eu un opéra de Little Nemo, c'est plus récent. Alors on aimerait bien, on se demandait s'il l'avait vu, est-ce que ça lui aurait plu ? Extrême.
À quoi cela servirait de grandir, sinon de voir l'enfance s'accomplir ? Nemo, Slumberland ! La princesse!
Là, tous les genres de l'opéra se mêlaient dans cet opéra français, ce Little Nemo créé au Théâtre Gralin de Nantes en janvier dernier sur un livret musical d'Olivier Balazuc et sur une histoire d'Arnaud Delalande. Avec vous, Benoît Peters, on revient sur le parcours étonnant de cet illustrateur, ce pionnier du dessin animé qui était Winsor Maquet, à partir de Little Nemo qui a quand même été son succès phare. Il faut juste raconter que tout n'a pas été heureux quand même pour lui. Revers de la médaille après la Première Guerre mondiale, la féerie Maquet ne prend plus. Il se démode. Pourquoi ? Pourquoi ses dessins ne parlent plus à cette nouvelle Amérique, à cette autre Amérique, celle qui tente de se reconstruire au sortir de la guerre, qui est en plein effort ?
Alors il y a plusieurs choses. D'abord, sur le plan biographique, il a tellement vagabondé avec la scène, il a tellement pris ses aises avec son journal que son patron, le fameux William Randolph Hearst, celui qui inspirera le Citizen Kane d'Orson Welles, commence à s'énerver. Un jour, il essaye d'appeler Maquet, on lui dit « Monsieur Maquet est très occupé », il s'apprête à monter sur scène et Hearst le convoque le lendemain et lui dit « Désormais, vous ne travaillez plus que pour moi, je double votre salaire, mais vous arrêtez votre badinage avec la scène ». À partir de là, il lui demande surtout d'illustrer des éditoriaux, de quitter le dessin animé et la bande dessinée, et donc les dernières années sont moins inspirées. Mais il est vrai aussi que le goût du public a évolué. On n'imagine pas la rupture qu'il y a entre le monde de 1914 et le monde de 1918. Autant on est jusque dans les années 10 dans l'euphorie, dans le sentiment du possible, autant la Première Guerre mondiale va nous montrer que tout ce qui a fait rêver, à commencer par les voitures et les avions, peut devenir arme de guerre, arme de destruction. Le film sur le Lusitania, qui est le premier dessin animé documentaire de l'histoire sur ce torpillage d'un paquebot, marque vraiment un tournant. C'est-à-dire que Maquet entre dans le sérieux comme si l'univers du merveilleux, de la fantaisie, de la plongée dans les racines de l'histoire, se mêlant à la modernité, comme si tout cela était derrière lui. Là encore, il ressemble à Méliès. Vous savez, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les gens ne voulaient plus voir les voyages dans la Lune et les jeux de transformation de Méliès. On aborde un autre monde avec une sorte d'esprit de gravité. Quelque chose a changé. Le cinéma lui-même change. La bande dessinée passe vers des modèles qui sont plus des modèles de récits d'aventure. Et donc, cet univers enchanté est oublié pour un temps. Il faudra finalement attendre les années 60 pour que des dessinateurs, venus plutôt de l'avant-garde, de l'underground, aux États-Unis, redécouvrent les racines de la bande dessinée, retrouvent des journaux, les republient, souvent de manière assez médiocre. Une première édition paraît en France, en 1969, chez Pierre Auray, un grand livre qui émerveille, qui émerveillera notamment François Skuyten, qui alors est tout jeune, qui a 12 ans. C'est le moment où nous rencontrons, il me parle déjà, il me montre ce livre que je ne possédais pas. Et peu à peu, tous les auteurs de bande dessinée, mais bien d'autres gens aussi, vont redécouvrir la féerie de Mackay. On va réussir à reproduire beaucoup mieux les pages, reproduire beaucoup mieux les couleurs, et on va retrouver des originaux. Beaucoup des pages originales de Mackay ont été détruites, ont été soumises aux vicissitudes du temps. Malgré tout, il en subsiste. Et c'est le cœur de l'exposition qu'on présente avec François à Cherbourg. C'est un très grand nombre de planches originales, le plus grand nombre de planches originales, absolument merveilleuses, magnifiques, le plus grand nombre jamais exposé, y compris aux États-Unis. Donc c'est à Cherbourg, ça pourrait sembler insolite, mais Cherbourg est une ville qui a beaucoup de liens avec les États-Unis, à travers les paquebots depuis longtemps, et donc les responsables de la ville avaient idée de rendre hommage à cette naissance de la bande dessinée américaine et à son artiste le plus emblématique.
Oui, c'est ça. Donc c'était quand même le grand gâchis, c'est qu'après sa mort, beaucoup d'originaux vont se perdre ou être détruits. Et
y compris
et il
par
va
son fils, qui les découpe, puis il y a des inondations, y a, enfin tout ce qui se passe. Vous savez, c'était pas destiné à durer. Mackay n'a jamais vendu un dessin de sa vie, un dessin original de sa vie. Les originaux, il les gardait, il les montrait peut-être à ses amis, mais ça n'allait pas au-delà. Et puis, la dispersion, le travail du temps. Or, aujourd'hui, quand on voit ces pages originales immenses, on sent le génie graphique de Mackay. Parce que, bien sûr, c'est une très grande figure du dessin animé et de la bande dessinée, mais c'est avant tout un dessinateur prodigieux, un des meilleurs dessinateurs du début du XXe siècle, et son trait lui-même a toutes sortes de variations très surprenantes. On voit chez Mackay, quand on regarde les originaux, donc sans les couleurs, on voit chez Mackay comment il souligne très fortement les personnages principaux, Nemo, Flip, Impy, la princesse, et comment, par contre, pour le décor, il use de toutes sortes d'épaisseurs de traits, et parfois en les laissant quasiment se dissoudre. Et puis il joue avec les techniciens du journal, les chromistes, qui vont transformer ces pages noir et blanc en pages couleur dans un dialogue avec lui, qui tient compte de toutes les possibilités technologiques de l'époque. C'est pas quelqu'un qui peint ces pages, c'est vraiment quelqu'un qui dialogue avec les machines, avec les encres d'imprimerie.
Et alors pour l'héritage, chacun est allé chercher dans son œuvre ce qui le séduisait le plus, de Walt Disney à Miyazaki, en passant par Art Spiegelman et bien d'autres.
Et Möbius notamment.
Et Möbius, vous évoquiez Chris Ware aussi. Vous évoquiez à l'instant aussi cet héritage revendiqué par votre complice Skuyten, Schuyten à la française, pardon pour les Belges. Non, sérieusement, on retrouve beaucoup avec les cités obscures que vous avez scénarisées, Benoît Peters, cet art de la ville. C'est-à-dire que Mackay était aussi un dessinateur architecte, un dessinateur bâtisseur, et avec son crayon, il a littéralement construit des décors féeriques. C'était ça l'influence aussi, celle des espaces, cette manière de penser l'espace sur une feuille. Vous êtes aussi un théoricien de la bande dessinée, cases, planches, récits. Comment on lisait les dessins de Mackay? Est-ce qu'il avait une liberté graphique entière, celle des autodidactes?
Oui, on peut dire ça, quoique ce ne soit pas un autodidacte complet, puisqu'il a suivi les cours dans sa jeunesse d'un certain John Goodison, qui essayait sur lui et 5 autres étudiants une nouvelle façon d'enseigner la perspective. Et la perspective chez Mackay, elle est absolument vertigineuse. Il se permet des doubles points de fuite, il fait parfois des perspectives curvilignes, des choses très très étranges, très étonnantes, et évidemment parfaitement adéquates à ce monde américain qui est en train de grandir. Au fond, ce que Mackay comprend, c'est que la grande page du journal est elle-même une architecture, et qu'on peut faire entrer l'architecture de la ville moderne et du gratte-ciel dans l'espace de la page, tout en ménageant une lisibilité. Alors vous avez par exemple cette page, peut-être la plus célèbre de Little Nemo in Slumberland, où on voit le lit de Mackay sortir de la chambre, s'aventurer peu à peu dans la ville, en grandissant, en passant au-dessus des immeubles, et finalement, dans un réverbère de style nouille, le lit s'entortille et Nemo retombe. Mais ce sont des hommages extraordinaires à cette architecture qui l'a tellement marqué, et cette architecture dont il est le contemporain. Et je crois que c'est une des très très belles choses de Little Nemo, c'est aussi une chronique de cette Amérique des années 1905-1910.
Et ce dessin que vous évoquiez est en couverture donc de cette très belle édition des aventures complètes de Little Nemo, republiée par Taschen. Il faut avoir un dos assez costaud aussi pour porter ce beau et grand livre. Hein.
Oui, nous avons édité à l'occasion de l'exposition un livre encore plus grand, avec 26 planches originales reproduites, presque à dimension, et là il pèse 7 kilos.
Merci Benoît Peters, et je rappelle que pour vous aussi c'est un retour à Cherbourg à travers la figure de Winston McKay, parce que cette exposition, vous en aviez fait une aussi, c'était le livre Voyage à Cherbourg en 2004 à l'occasion de la deuxième biennale du 9e art. Voilà, c'est incroyable aussi qu'une ville consacre chaque année ou tous les deux ans une biennale à la question de la bande dessinée, à cet art qui est encore trop souvent mésestimé, voire sous-estimé. Un grand merci à vous. Dans quelques instants sur France Culture, c'est l'été, et du lundi au vendredi à 13h50, vous allez retrouver Estelle disparue, une série documentaire en 40 épisodes de Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 et il s'intitule La disparition.